c'est de Lorraine, mais il travaille également en histoire des sciences et en histoire, on pourrait dire ici aussi de l'Internet, en lien avec le centre Alexandre Coiré. Et il va vous présenter son corpus, qui là aussi est original, à la fois pour un historien des sciences et pour l'historien de manière plus globale.
Merci. Donc oui, il s'agit d'histoire des sciences, il s'agit d'histoire de une communauté de scientifiques qu'on appelle la computational chemistry, la chimie computationnelle. Et bon, je vais dire en deux, trois mots de quoi il s'agit, et ensuite je parle de la mailing list comme source. Donc la computational chemistry, c'est l'utilisation des ordinateurs par des chimistes pour la chimie. Donc il y a des revues et des journaux, et donc il s'agit d'une communauté qui est liée à l'ordinateur, évidemment. Donc avec l'évolution de l'ordinateur, elle a évolué. Et mon argument, c'est de dire que quand les ordinateurs sont devenus un objet de le laboratoire, un objet de masse, en passant du supercomputer jusqu'au personal computer et avec le terminal graphique, l'activité du chimiste computationnel, elle est devenue... elle avait un problème qui était le fait que le développeur, celui qui écrit les programmes, et l'utilisateur, celui qui fait des calculs avec, deviennent plus forcément la même personne. Donc, ce qui a posé la question de quoi faire avec le logiciel. Donc, c'est une communauté scientifique qui est différente de la République des informaticiens dont parle Flichy à propos de l'histoire d'Internet. Et de fait, la tension qui existait, et ces deux petits graphiques, ce qu'ils sont censés montrer, c'est qu'il y a eu, d'une part entre les constructeurs d'ordinateurs et d'autre part entre l'industrie pharmaceutique, cette communauté s'est retrouvée au milieu parce qu'il y avait des logiciels à vendre par les constructeurs d'ordinateurs avec des clients qui étaient l'industrie pharmaceutique. Le graphique, c'est de montrer que, et justement, donc la date, elle est importante, qu'au milieu des années 80, le nombre de publications dans des revues scientifiques faites par des gens qui travaillaient dans l'industrie pharmaceutique, il a explosé, et que parallèlement, le nombre de publications faites par des logiciels qui étaient commerciaux, qui étaient vendus, a explosé à peu près au même moment. Donc la question du logiciel, c'était quoi faire au niveau publication, quoi faire au niveau vente ou partage, quoi faire au niveau ouverture du code, ce genre de choses. Bien. Et il se trouve que donc cette communauté scientifique, elle a commencé à échanger au sein d'une mailing list qui a été créée en 91, donc à peu près à l'époque qui m'intéresse. Et donc une mailing list, bon, ben vous savez ce que c'est, donc c'est une communication asynchrone, en fil, donc une threaded conversation, comme on dit, comme les newsgroups, comme Usenet, comme aussi c'est les forums de discussion qui, eux, sont sur le web, mais donc qui utilisent l'email, avec le listserv, et qui donc est un médium typique des années 90. Alors, contrairement au forum qu'on connaît sur le web, il n'y a pas d'édition possible, il n'y a pas d'anonymat au sens où on ne peut pas s'appeler FloFlo42 sur le forum, mais on se pose quand même la question de l'identification par l'adresse email, qu'est-ce que c'est. Et l'échange peut être privé ou la liste peut être privée ou publique, et du coup les archives peuvent être consultables ou pas. Dans ce cas-là, c'est le cas. Sur tout le monde peut écrire, et pour s'abonner, ça consiste à recevoir les mails. Donc c'est une mailing list qui a commencé en 91, qui continue encore à vivre, la durée dans le temps, la survie d'une mailing list, c'est très lié à un équilibre entre, d'une part, le fait de ne pas mourir par faute de dialogue. Il y a des mailing lists qui ne survivent pas au faible nombre d'échanges, et au contraire, l'explosion par un trop grand nombre d'échanges, et en particulièrement qui peuvent être polémiques, et donc résulter à un manque à un désabonnement au liste. Bien. Donc c'est un corpus de texte, donc la première chose qu'on peut faire, c'est du text mining, et comme c'est comme une correspondance des textes qui sont datés, ben, on peut faire en particulier du mining dans le temps, c'est-à-dire chercher des occurrences, l'évolution d'occurrences au cours des échanges. Là, vous avez le mot graphics ou le mot freeware. La deuxième chose, c'est que c'est un réseau, donc on peut faire la social network analysis. Et bon, alors ça, par contre, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai extrait d'une publication que je cite même pas. Hein, bon, on peut, d'une part, préciser les rôles des différents intervenants en faisant de la SNA. On peut aussi voir quels sont les sujets qui sont les plus populaires, mais aussi comment ils sont liés entre eux, par qui parle, à quel moment, etc. La troisième chose, c'est que ça j'emprunte à Greer, qui lui-même l'emprunte à Goffman, c'est un mode de communication qui est censé être informel, contrairement aux articles, contrairement aux rapports, contrairement à d'autres formes de sources écrites. Ben, c'est censé abaisser les barrières hiérarchiques, voire géographiques ou disciplinaires. Bon, c'est une vision un peu naïve de dire qu'il n'y a pas de problème de hiérarchie dans une mailing list. Bien sûr, il y a des gens qui prennent la parole plus que d'autres. Je ne sais pas si on voit les deux petites références que j'ai mises à droite, mais des problèmes, par exemple, de genre ou d'ethnicité peuvent apparaître dans ce genre de situation, aussi bien que offline. Et l'influence du modérateur ou de l'administrateur est cruciale pour que cette informalité soit effective. L'influence du modérateur, ça m'amène à parler de la façon dont est gérée la liste, la façon dont elle est hébergée, mais aussi la façon dont elle est gérée par l'administrateur au point de vue, par exemple, des terms of service auxquels on s'engage quand on s'inscrit à la liste et quand on publie dans la liste, qui peut en dire beaucoup sur dans quel cadre les gens en parlent, en particulier dans My List ici, quelque chose qui me paraît remarquable, c'est la tension générée entre académique et commercial, fait que le fait des commercial announcements qui sont admis, mais réglementé, et que donc il y a un cadre dans lequel on s'exprime. Il y a aussi le problème de la privacy, pour ce qui est de la liste en tant qu'archive, cette fois, donc les terms of service, ils ont une influence sur ce qu'accepte le contributeur en tant que d'exploitation de matériel ensuite. Bon, donc je me suis trompé de prénom, mais donc là je cite aussi le côté STS, disant qu'il y a un lien entre la communauté et l'aspect technologique de son expression. Si je cite le Usenet Newsgroup Know comme un message, c'est que donc la forme du en tant que mailing list plutôt que groupe Usenet, elle était liée aussi au fait que, comme il y a beaucoup de gens qui travaillaient dans l'entreprise plutôt que dans le monde académique, et que le email était leur seul accès, dans les années 90, à l'extérieur, du point de vue online, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de web ni de Usenet, ça paraissait, il y avait un débat dans la communauté au point de vue de email en tant que seul moyen d'expression possible. Et enfin, le plus important, donc ce qu'on appelle les flame wars c'est le fait qu'un fil de discussion dégénère en propos polémiques, c'est mauvais pour la santé de la liste, comme je disais tout à l'heure, par exemple, typiquement les listes sur la théorie du genre, ce genre de choses, elles explosent assez facilement. Par contre, pour l'historien, c'est ça mon point le plus important, c'est ce qu'il y a de plus intéressant au point de vue d'apprendre des choses, de sortir d'un discours poli pour révéler les tensions au sein de la communauté. Donc, j'emprunte à Gabriel Coleman le concept de troll comme personnage utile à la communauté en tant qu'il révèle les tensions au sein d'une communauté. Voilà. Et donc, et ça c'est censé être très STS aussi, que la controverse scientifique, c'est un moyen de l'appréhender par les fils les plus polémiques. Donc ça oblige les acteurs à se dévoiler et que dans le cadre d'une sociologie des épreuves, ça permet de se rendre compte de situations de crise, d'observer le changement de structure et de rendre les acteurs bavards. Voilà. Et je un dernier mot pour à propos de ce que disait Benjamin tout à l'heure, à propos des frappes chirurgicales. Évidemment, pour retrouver tous les fils polémiques dans la Méliénis, on peut d'une part tout lire, mais aussi, je pense que en faisant une analyse une social network analysis, on peut trouver les fils les plus polémiques de cette manière. Voilà.
Merci beaucoup, Alexandre. On va tout de suite, je pense, enchaîner et s'il accepte, à Philippe Rivielle, parce que certains seront peut-être obligés de partir et on ne voudrait pas les priver de cet exposé. On a un petit peu déjà exploré la relation de l'historien Internet. On pourrait passer des jours et des jours, et je pense que Philippe Rivielle va encore nous donner plein d'autres approches ou aspects. Alors, je tiens juste à rappeler qu'il a participé à l'ouvrage dirigé par Éric Bouchard qui s'appelle toujours « Regard croisé sur l'Internet », qui est paru en 2011, dans lequel on retrouve par ailleurs des contributions de Clarisse Ehrenschmidt. On parlait tout à l'heure du temps long avec les trois écritures. Elle avait notamment inscrit la réflexion dans la longue durée. D'Henri Desbois également, géographe, qu'on a eu d'autres occasions également d'inviter, ou encore de Paul Mathias, qui avait publié « Qu'est-ce que l'Internet ?». Bref, là encore, c'est un livre qu'on a eu beaucoup de plaisir, nous, à découvrir. Et puis, Sylvienne, on vous remercie beaucoup d'être.